Je vis ensuite, auprès de la colonne de l'humanité du Sauveur dont nous venons de parler, une tour extrêmement éclatante, située sur le mur en pierre du côté du midi de l'édifice en question, de manière qu'on pouvait l'apercevoir de l'intérieur et de l'extérieur de cet édifice. Sa largeur, dans œuvre, était sur tout le pourtour de 5 coudées, mais elle était d'une si grande hauteur que je ne pouvais la mesurer. Mais entre cette tour et la colonne de l'humanité du Sauveur, il y avait seulement la fondation, laissant apparaître un second intervalle vide de la longueur d'une coudée, comme cela a été démontré plus haut. Et cette tour n'était pas encore terminée. Mais le travail était poussé avec beaucoup d'entente et d'activité par un grand nombre d'ouvriers. Et sur le haut des murs, il y avait 7 redoutes merveilleusement fortifiées. Et dans l'intérieur de l'édifice, je vis une échelle apposée sur le haut de cette tour. Et depuis le bas jusqu'en haut, il y avait une multitude d'hommes dont les visages brillaient comme du feu, avec des vêtements blancs et des souliers noirs. Et parmi eux, il y en avait dans le même costume, d'une taille plus élevée et d'un aspect plus ravissant, qui regardaient cette tour avec plus d'attention. Ensuite, vers la partie septentrionale de l'édifice, je vis le monde. Les enfants d'Adam parcoururent l'espace qui sépare le mur lumineux dans cet édifice de science allégorique, avec le contour du cercle d'où sortait le trône du brillant jeune homme. Et beaucoup d'entre eux traversaient l'édifice entre cette tour, qui figure le précurseur de la volonté de Dieu, et la colonne de la divinité de son Verbe, entrant et sortant à travers ce mur de science allégorique, comme on voit un nuage s'étendre de côté et d'autre. Mais ceux qui entraient dans cet édifice étaient revêtus d'une robe éclatante de blancheur, et les uns, comblés de la joie la plus douce de se voir revêtus de cet habit, le gardaient précieusement. Les autres, devenus tristes de son poids et de son embarras, essayaient de l'ôter. Mais cette vertu que j'avais entendue appeler « science de Dieu » les reprenait souvent et disait à chacun d'eux « Prends garde d'ôter l'habit dont tu es revêtu. » Et je vis que plusieurs, frappés de ces paroles, s'appliquaient à conserver, avec beaucoup de peine, l'habit qui leur paraissait difficile à garder. Mais d'autres, se moquant de cet avertissement, se dépouillèrent avec fureur de cet habit, le rejetèrent avec mépris pour suivre le monde qu'ils avaient quitté, et s'appliquant à une foule d'objets, ils apprirent 1000 futilités des vanités du siècle. Et parmi eux, un certain nombre revinrent à cet édifice et reprirent le vêtement qu'ils avaient quitté. Tandis que d'autres, ne voulant pas revenir, restèrent ignominieusement dans le monde sans cet ornement. Et je vis une foule de gens d'une malpropreté et d'une noirceur repoussante qui, de l'Aquilon, venaient fondre sur cet édifice et, envahissant avec fureur cette tour, sifflaient contre elle comme des serpents. Et parmi eux, quelques-uns, se détournant de cette conduite insensée, se purifièrent. Mais les autres persévérèrent dans leur méchanceté et leur infamie. Et dans l'intérieur de cet édifice, j'ai vu du côté de cette tour 7 colonnes en marbre blanc, admirablement sculptées dans leurs contours, qui soutenaient un plancher en fer de forme ronde, élégamment élevé au-dessus des corniches. Et au-dessus de ce plancher, je vis une image merveilleusement belle qui regardait les hommes du monde, et sa tête brillait comme la foudre d'un si vif éclat que je ne pouvais pleinement la considérer. Et ses mains étaient amoureusement ramenées vers son cœur, et ses pieds étaient cachés à ma vue dans ce plancher, et elle avait sur sa tête, en forme de couronne, un cercle d'un éclat merveilleux. Elle avait aussi une robe couleur d'or, de laquelle pendait, depuis la poitrine jusqu'aux pieds, une ceinture qui scintillait, comme l'éclat de la pourpre, des pierreries les plus précieuses sur un fond couleur verte, blanche, rouge et azur. Et elle criait aux hommes qui vivaient dans le monde et disait « Ô hommes, que vous êtes lents à vous décider. Pensez-vous que le secours vous manquerait si vous vouliez revenir, lorsque vous commencez à courir dans la carrière du Seigneur ? Les moucherons et les mouches vous en empêchent par leur bruit. Mais prenez l'éventail de l'inspiration du Saint-Esprit et vous parviendrez à les chasser au plus vite. Il vous faut courir et espérer le secours de Dieu. Abandonnez-vous sans réserve au service du Seigneur et vous serez fortifiés par sa main toute puissante. » Et sur le pavé de l'édifice, il y avait trois autres images, dont l'une était penchée sur ses colonnes, et les deux autres étaient devant la première des trois, à côté l'une de l'autre. Et toutes trois, elles se dirigeaient vers la colonne de l'humanité du Sauveur et vers la tour dont il est ici question. Or, l'image qui était penchée vers les colonnes m'apparut d'une largeur égale à celle de cinq hommes qui lui tenaient lieu d'assesseurs, mais d'une si grande étendue que je ne pouvais en mesurer la longueur, en sorte que ses regards s'étendaient sur tout l'édifice. Elle était aussi douée d'un esprit élevé et d'une sagacité qui lui permettait de fixer ce regard pénétrant vers le ciel, étant comme une nuée blanche, lumineuse et sereine. Et je n'ai remarqué en elle aucune forme humaine. Et elle cria partout à toutes les autres vertus. « Levons-nous vite, disait-elle, parce que Lucifer a répandu ses ténèbres par tout le monde. Élevons des tours, fortifions-les de redoutes célestes, parce que le diable est l'ennemi qui attaque les élus de Dieu, lui qui, dès le principe, et dans sa gloire, conçut et fit de grandes tentatives. Maintenant, dans sa ruine, conçoit et entreprend encore plus, car il multiplie ses ruses et sa malice, en répandant son souffle impur, et ne veut point céder. C'est contre ses desseins que nous sommes établis pour vaincre sa malice et sa perversité. Autrement les hommes, dans cette lutte, ne pourront se sauver sur la terre. Et de même qu'à la première origine, il n'a pas craint de s'opposer à Dieu, de même encore, en ces derniers temps, son imitateur, l'Antéchrist, osera résister à l'incarnation du Seigneur. Mais Lucifer est tombé au commencement des temps, et l'Antéchrist va tomber à la fin des temps. Alors, on verra ce qu'est le vrai Dieu et celui qui n'est jamais tombé. Et de même que Lucifer eut pour sectateurs les démons qui, précipités du ciel, ont partagé le malheur de sa condamnation, de même encore, il a sur la terre des hommes qui le suivent dans l'abîme de la perdition. Mais nous, les vertus, nous sommes postés contre ses ruses et ses suggestions qu'il trame dans le monde pour capter les âmes afin de réduire, par nous, à néant, dans le cœur des justes, tous ses artifices, de manière à manifester sur tous les points sa confusion. Ainsi Dieu par nous sera connu, parce qu'il ne doit point être caché, mais manifesté dans son entière justice. Mais la première des deux autres images qui se tenaient à côté l'une de l'autre devant la première des trois, paraissaient armées d'un casque, d'une cuirasse, et revêtues de gants et de brodequins, ayant à sa main droite une épée nue et une lame à sa main gauche. Et, foulant aux pieds un horrible dragon, elle eut enfoncé dans la gueule le fer de sa lance, en sorte qu'il vomissait l'écume la plus dégoûtante. Et elle brandissait, comme pour frapper fort, l'épée qu'elle avait à la main. Elle disait, « Ô Dieu Tout-Puissant, qui pourra vous résister et vous livrer la guerre ? Ce n'est pas cet ancien serpent, ce dragon, le démon. Aussi, par votre secours, je veux l'attaquer au point que nul ne pourra ni me résister, ni me vaincre, ni le fort, ni le faible, ni le prince, ni l'homme abject, ni le noble, ni le roturier, ni le riche, ni le pauvre. Je veux être une cabane fortifiée, fabriquant les armes invincibles, destinée à combattre les combats du Seigneur, et dont je suis la lame la plus fortement trempée. Car il ne sera pas dit que personne puisse être brisé en toi, très puissant Dieu, par qui je m'élève même pour chasser Satan. Je serai donc toujours pour l'humaine faiblesse un secours assuré devant leur timidité, par ce glaive acéré qu'ils brandissaient pour leur défense. Ô Dieu, très miséricordieux et compatissant, secourez ceux qui ont le cœur contrit. Et la troisième image paraissait avoir trois têtes, l'une à la place ordinaire, et les deux autres sur chaque épaule, et celle au milieu dépassait un peu les deux autres. Mais celle qui était au milieu et celle qui était à droite avaient un si grand éclat que leur clarté éblouissait mes yeux. Je ne pouvais distinguer si elles avaient les traits d'un homme ou d'une femme, et celle de gauche apparaissait un peu sombre et revêtue d'un voile blanc, comme une femme. Cette image était revêtue d'une robe de soie et de souliers éclatants de blancheur. Elle avait sur son cœur le signe de la croix, autour duquel était une lumière qui brillait sur sa poitrine comme l'aurore. De sa main droite, elle brandissait une épée nue qu'elle appliquait aussi pieusement avec la croix sur son cœur. Et je voyais inscrit sur la tête du milieu le mot « sainteté ». Sur la tête de droite, « source du bien », et sur celle de gauche, « dévouement ». Celle du milieu disait, en regardant les deux autres, « Je suis né de la sainte humilité comme l'enfant est né de sa mère. C'est par elle que j'ai été élevé et que j'ai été fortifié, comme un enfant s'élève et se fortifie au sein de sa mère. L'humilité, c'est ma mère, qui remporte la victoire et surmonte tous les obstacles les plus intolérables pour les autres. » Celle de droite regardait la tête naturelle et disait « Dès ma naissance, j'ai pris racine sur les montagnes au pic élevé qui est Dieu même. C'est pourquoi, ô sainteté, pour que tu te maintiennes, il faut que j'adhère à tes entrailles. » La tête de gauche regardait aussi la tête naturelle et disait « Ô malheur, malheur, malheur! D'où vient que je suis aussi sévère et aussi inflexible, si ce n'est, ô sainteté, parce qu'il m'est très difficile de remporter la victoire qui te vient en aide? Non, sans moi, tu ne pourrais tenir si je succombais. Ô douleur, pour celui qui néglige le bien, car il me faut enlever une épine des plus malignes, qui par sa piqûre me force à frapper à mort pour l'arracher avant qu'elle se perde dans mes chairs et qu'elle s'envenime en moi comme en un cadavre en pourriture. Ô sainteté, afin que je puisse persévérer en toi, je veux éviter les lacs envahissants du démon et les rompre par ma confiance au vrai Dieu. » Et celui qui siégeait sur le trône dont il a été parlé me fit connaître ces choses en ces termes. Le Fils de Dieu s'étant incarné, le nouveau peuple d'acquisition, soutenu dans le Saint-Esprit par la doctrine du salut du monde, se produisant par la fermeté d'hommes courageux, fortifié sous l'inspiration des vertus célestes contre le plus cruel des ennemis, à qui nul homme ne peut résister que par la grâce divine, se montre tellement invincible avec le secours du Seigneur, qu'aucun artifice de ce séducteur ne peut le séparer de Dieu ou l'anéantir dans sa pensée. C'est pourquoi cette tour que tu vois au-delà de la colonne de l'humanité du Sauveur représente l'Église qui, bien qu'achevée par l'incarnation de mon Fils, s'élève comme une nouvelle construction de toute espèce de bonnes œuvres par le courage et la sublimité des actes surnaturels pour s'opposer comme une forte tour à l'iniquité de Satan.